bienvenue à tous. Je suis Raph, bienvenue dans l'émission Prono Live, votre émission 100% Prono. Je serai accompagné aujourd'hui, et comme je viens de le dire, de nos experts Nadim alias Nou. Salut Nou.
Salut.
Également de Seb, notre spécialiste de tennis et football. Salut Seb.
Salut à tous.
Et enfin Chris, spécialiste de tout, et surtout de football. Salut Chris.
Salut à tous.
Alors, l'émission va durer 45 minutes, voire une heure. Comment va-t-elle se dérouler? On commencera comme d'habitude par un débrief de la grille passée avec les résultats des grilles, des pronostiqueurs que nous avons fournis en début de semaine. On parlera également du réveil rennais, la confirmation de Nantes et le carton du Real. On parlera également, puisque ça a surpris quand même pas mal de monde, les trois grosses erreurs d'arbitrage en Ligue 2 qui ont eu lieu, notamment un sujet en rapport avec la VAR. Malheureusement, une nouvelle fois, on s'est vraiment passé le problème de tension des supporters encore à Angers et à l'extérieur du stade à Montpellier. Et enfin, bien sûr, ce que vous attendez tous, c'est-à-dire le prono match par match pour la grille l'Autofoot 15 numéro 64, dotée d'un pactole d'€1 million, qui sera à valider avant demain soir, 20h55. On parlera également de quelques autres pronos Maker, sur quelques affiches également en Europe. Allez, c'est parti, on va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. On va commencer tout de suite par Nadim qui va nous parler du dégriff de la grille passée.
Oui, alors c'est une grille où on a fait 11, Christophe et moi, et Seb à 10. Et en fait, il y a eu trois surprises qu'il fallait trouver. Alors la plus grosse, c'est la victoire de West Ham en Coupe de la Ligue anglaise à Manchester United. Donc là, on s'en veut un peu tous les trois parce qu'on n'était pas vraiment serein par rapport à nos bases là-dessus. On a dit que bon, ce ne serait pas forcément facile, mais qu'on comptait sur la profondeur de banc de Manchester United. Et en fait, c'est plus le rythme de West Ham qui a prévalu sur ce match et qui fait que West Ham s'est imposé et qui a justifié les rapports de cette grille. Après, il y a eu la victoire de Strasbourg au RC Lens. Donc ça, par contre, on l'avait un peu prévu, puisque le RC Lens jouait à huis clos. Et en fait, Strasbourg restait sur une super victoire 3-0 contre le FC Metz. Donc tout était possible sur ce match et on est deux, je crois, à l'avoir couverte. Ensuite, la dernière surprise, malheureusement, donc personne ne l'a coché, c'est la victoire des Merlus contre l'OGC Nice. Donc Lorient, ils se sont imposés 1-0, mais on va dire que c'était un peu chanceux comme victoire, parce qu'il y a eu non seulement le pénalty de Guiri qui a été tiré je ne sais comment, et puis il y a eu une barre d'Andy Delors qui aurait dû finir au fond, mais il a voulu se mettre sur son bon pied, et voilà, il a déjoué. Donc je crois que Seb et Chris avaient N2 là-dessus, moi j'avais basé Nice, donc vous étiez plus proche de la vérité, parce que je pense que le nul n'aurait pas été usurpé sur ce match. Après, il y avait évidemment le nul d'Angers contre l'OM à trouver, et puis le nul de Montpellier contre Bordeaux, et tout le reste, c'était des gros favoris. Ça a quand même donné 23 810 € à 14, ce qui reste quand même pas mal pour une grille qui n'avait rien d'extraordinaire niveau pronostic. Voilà pour la grille, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Seb, Chris.
Non, c'est la victoire de Lorient, au final, ils tapent des gros chez eux, mais... Enfin, c'est un match qui ne devrait jamais gagner. Hein. C'est une anomalie si on regarde comment ça s'est passé.
D'accord.
Oui, vas-y. Oui, et non, juste le. Moi, j'avais basé l'OM, mais c'est vrai qu'il a beaucoup fait tourner et que ça a fini un match au final logiquement en nul. Mais voilà, difficile de savoir quels sont les changements des coachs sur les matchs en milieu de semaine comme ça. Donc voilà.
Ok. Moi, je voudrais savoir, sur la victoire de West Ham à Man United, est-ce que finalement, dans l'approche prono, est-ce qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que c'était un match de coupe et que éventuellement, Man U n'allait pas le jouer forcément comme un match de championnat? Est-ce que vous avez pu percevoir ça?
En fait, oui, on l'a perçu parce qu'on en a parlé, mais on a compté sur la profondeur de banc.
Alors, vous n'avez pas osé.
Il y avait un détail, mais Man U, ils sont en Ligue des Champions, donc raison de plus pour faire tourner. Mais West Ham, ils jouent aussi l'Europa League. Alors certes, c'est moins important, mais ils sont tous les deux engagés sur plusieurs tableaux. Donc en fait, les deux ont quand même fait tourner et ça devait équilibrer les choses. Voilà, c'est une surprise qui vraiment se pronostiquait pour un pronostiqueur. Bon, si jamais on avait plus de triples, on l'aurait peut-être mise. Mais voilà, déjà 3 triples, 3 doubles, c'est un certain luxe et on aurait dû plutôt cibler ce match-là.
Après, c'est sûr que c'est une grille qui laisse pas mal de regrets, parce que quand on regarde les pronostics et le résultat de Lens, qu'on avait un petit peu vu venir, Manchester, où on avait quand même pas mal hésité sur cette base, voilà, c'est une grille qui peut laisser pas mal de regrets, quoi.
Après, on avait tous basé Paris aussi.
Voilà, j'ai oublié un gros détail, j'ai oublié, c'est la base parisienne. Elle sort quand même de nulle part, et ça aurait pu faire une grille atomique, puisqu'il y avait 3 gagnants seulement avec le nul du PSG. Donc oui, ceux qui ont basé Paris sont un peu miraculés sur le match. Oui, ça, on l'oublie.
Et parfait. On voulait aussi aborder avec vous rapidement le réveil rennais, la confirmation de Nantes et le carton du Real. Je pense que Nadim a choisi à dire.
Oui, Rennes m'a agréablement surpris. Enfin, ils n'avaient pas marqué lors de leurs 3 dernières sorties en championnat. Et là, ils se sont réveillés, ils n'ont pas fait semblant. Alors, ils nous avaient déjà montré leur potentiel face à Tottenham, où ils avaient fait un excellent 2-2, un match qu'ils auraient dû gagner, on en a parlé. Mais là, ça a été portes ouvertes. Et puis, malheureusement, en face, je pense que les Clermontois, ils sont un peu rentrés dans le rang. Et on voit bien que c'est improbu, ils ont complètement lâché. Après, c'est un match, vous avez dû le voir sur Twitter, que j'ai vécu un peu particulièrement, puisque j'attendais le but de Laborde, et à 4-0, quand on attend un buteur et qu'il n'y a toujours pas le sien, on devient un peu fou. Donc voilà, c'est un match qui m'a procuré pas mal d'émotions et que j'ai bien apprécié.
Ouais, moi après, Rennes, je m'en méfie encore. Hein. Quand on voit que Clermont est arrivé en touriste là-bas avec une équipe largement remaniée, Rennes, ils étaient à la maison, bon tant mieux, ils ont fait le plein, tout leur réussi et Clermont a lâché le match assez rapidement. Mais je demande quand même confirmation, moi je suis pas forcément convaincu que ce soit le réveil rennais pour l'instant.
Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut attendre la confirmation quand même. Ce match à Bordeaux ce week-end va être un test pour Rennes, parce que c'est vrai que Clermont quand même l'entraîneur avait enlevé 7 titulaires par rapport au dernier match. Et pour une équipe, pour un promu qui enchaîne 3 matchs en une semaine, c'est quand même compliqué, quoi.
Tu nous en avais parlé, Christophe, qu'ils attendaient le match contre Monaco.
C'est ça, exactement. Pour eux, c'était le match de Monaco, parce que voilà, c'est le match de gala où toute l'Auvergne va être réunie pour ce gros match. Donc voilà, je pense que inconsciemment, le club avait un peu lâché ce match à Rennes. Ouais.
Ok, on va enchaîner avec, je sais pas, tu as parlé du Real, Nadim ?
Non, j'ai pas parlé du Real, effectivement. Le Real, ils ont aussi mis 6 buts à Majorque. Alors Majorque, certes, c'est impromu, mais il déroule. Enfin, le Real fait ce qu'on attend en fait du PSG, hein, pour parler de Paris. Il faudrait cartonner les petites équipes. Et voilà, j'aime bien les équipes qui jouent à fond le total football, qui ne s'arrêtent pas de jouer à 2-1 ou 3-1. Donc bravo au Real. Et puis je crois qu'il y a un Karim Benzema qui est complètement en feu. Je crois qu'il est il est impliqué sur 15 débuts du Real. Donc soit buteur, soit passeur décisif. Voilà, on dirait qu'il n'en finit plus, qu'il rajeunit ou qu'il se bonifie avec le temps. Je ne sais pas trop, mais bravo à Benzema.
Te connaissant bien, on va dire très bien, je sais que tu es la suffisance. C'est quelque chose qui te perturbe au plus haut point quand les grosses équipes ne jouent pas à fond. Les petits clubs, pour toi, c'est de la suffisance.
Tu m'as complètement cerné. Je n'accepte pas l'économie et on va peut-être en parler. On fera sûrement un Spaces pour mardi prochain avec le PSG Manchester City. Mais j'ai très très peur pour le PSG mardi.
D'accord, ok. Mot sur Nantes ?
Ouais, Nantes, ils ont confirmé. Donc tant mieux, ils ont mis 7 buts en 2 matchs. Je pense que ça n'a pas dû arriver depuis un moment. Donc j'espère qu'ils ont trouvé le jeu à la nantaise. Et pourvu que ça dure, parce que je suis un peu de la génération de ceux qui ont connu justement le jeu à la nantaise, enfin les dernières années, puis c'est une équipe plaisante à voir, j'aime bien. Donc bravo Nantes.
Mais c'est vrai que les années nantaises sont un peu loin avec Coco Suodo et... Et dans un passé plus proche, on va dire, Reynald Denweck dans une moindre mesure.
Oui. Avec Loco en attaque et compagnie.
Pedros. Oui, l'équipe de...
Pedros,
exact.
Oui.
L'équipe de folie en 96, si je ne dis pas de bêtises, où ils ont enlevé haut la main le titre de champion de France. Allez, on enchaîne avec 3 grosses erreurs d'arbitrage que vous avez relevées en Ligue 2, avec un sujet notamment en rapport avec la VAR. Enfin, qui veut commencer ?
J'ai amené le sujet parce que j'ai suivi le multiplex de Ligue 2 et puis j'ai vu ces 3 actions complètement litigieuses. Donc il y a 2 buts qui auraient dû être validés, un à Ajaccio et l'autre pour le Stade Malherbe de Caen. Donc c'est des buts qui comptaient énormément puisqu'il y a eu 0-0 à Ajaccio et puis Caen s'est incliné. Et puis il y a aussi un pénalty en fin de match pour les Sochaliens sur un tacle glissé du défenseur Guingampé qui la prend vraiment sur la poitrine et l'arbitre voit la main qui est allongée au sol. Bref, c'est juste pour rappeler qu'en fait, en Ligue 2, il manque 2 choses. Donc, il manque la goal line technology. Donc ça, je pense que tout le monde a compris l'utilité de la goal line. Et puis la VAR, alors certes, elle n'est pas toujours utilisée à bon escient en Ligue 1, mais pour le pénalty, clairement, une petite VAR et il aurait annulé sa décision.
Donc, d'accord, donc tout ça, une question de budget, quoi, encore.
A priori, c'est une question de budget, oui, puisque c'est ce qui avait d'ailleurs freiné, à ma connaissance, le développement de la VAR et de la goal line dans le monde. La FIFA n'était pas très favorable parce que la FIFA avait pour idée que dans la plus petite division, on jouerait le même football que chez les professionnels. C'est ce qu'ils avaient pendant un moment, ils avaient donné ceci comme argument, que le football devait être universel et pratiqué de la même manière, quelle que soit la division.
D'accord.
Ouais, après, en Ligue 2, ce n'est pas non plus la troisième division du championnat thaïlandais, quoi. Il devrait avoir quand même un peu un minimum pour mettre en place au moins la
Dès lors que tu as le statut professionnel, tu devrais, oui.
Voilà, ils vont réfléchir suite à ces faits parce que voilà, maintenant, avec la multitude des caméras, on ne rate plus aucune action, alors qu'avant, on n'avait pas forcément les bonnes images pour décider. Donc, les erreurs sont de plus en plus nombreuses parce que la technologie, elle avance et elle peut disséquer n'importe quelle action.
Ok, très bien. Malheureusement, encore un sujet qui devient à la mode, et on s'en passe très bien, c'est de nouveau des tensions entre supporters à Angers et à l'extérieur du stade à Montpellier. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce sujet, mis à part qu'on ne comprend pas, quoi. On ne comprend pas ce qui se passe. Des clubs qui vont être sanctionnés, lourdement sanctionnés, encore une fois, et mais on ne comprend toujours pas, quoi. On a du mal à analyser.
On en parle maintenant à chaque Spaces et le problème devient vraiment grave parce que ce n'est pas un incident par journée, c'est plusieurs. J'ai lu tout à l'heure qu'ils réclamaient 9 mois à 36 mois de suspension pour les supporters à Lens qui étaient rentrés sur la pelouse, mais moi ça me fait rigoler en fait. C'est interdiction de stade à vie, point barre, et on ne donne pas une deuxième chance. 9 mois c'est rien dans une vie. Le mec il va revenir l'an prochain au stade et refaire les mêmes bêtises. Il faut vraiment des sanctions dissuasives. Et je suis pour, j'ai écouté Karine Galli hier soir, je suis pour des sanctions individualisées. En fait, le problème, c'est qu'on donne des sanctions collectives à des tribunes et finalement, les responsables, ils ne se sentent pas directement visés. J'étais complètement d'accord avec elle. Il faut cibler les personnes et faire du cas par cas et pas pénaliser ceux qui ne sont pas à l'origine de ces problèmes.
Surtout qu'encore une fois, il y a à la période avant le Covid, on interdisait des déplacements pour un oui ou pour un non, des fois pour des raisons qui étaient un peu des prétextes, et voir comment ça a changé là, en 2-3 ans, on se demande vraiment ce qui se passe. Mais d'ailleurs, il y a une réunion là, je crois, au ministère des Sports aujourd'hui ou demain, avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice aussi, pour statuer sur tous ces sujets-là. Donc, je pense que là, vu la pression qu'il y a en ce moment, pression médiatique et politique, à mon avis, il va se passer. Il y aura un avant et un après.
Après, comme tu le dis, Nadim, je pense qu'il faut se baser un peu sur le modèle peut-être anglais. Ces dernières années, ils ont fait pas mal de sanctions individualisées. Et c'est vrai que ce problème d'hooliganisme a peut-être été résolu en Angleterre par rapport à de grosses sanctions qui ont été faites sur beaucoup de supporters, quoi. Peut-être qu'il faut se baser sur là-dessus. Après, moi, je suis un peu inquiet parce que j'ai toujours pas entendu Noël Le Graët réagir sur ce sujet. Donc, la Brune aussi, ouais. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que les hautes instances réagissent et nous donnent un peu leur avis. Et, voilà, c'est un peu inquiétant.
Alors, je vais juste nuancer un tout petit peu, si tu le permets, Nadim, quand tu parles d'interdiction à vie. Alors, je suis d'accord avec toi, mais en cas de récidive. Déjà priver quelqu'un un an de sa passion, ça me paraît déjà bien. Après, si effectivement tu as des cas de récidive, là je suis complètement d'accord avec toi.
Et puis ça dépend de la gravité des faits, évidemment.
Oui, c'est ça. Ça
juste envahir la pelouse s'il n'a pas. Mais celui qui a donné le coup
à Payet,
lui, on ne doit plus le voir dans un stade.
Je suis d'accord. Là, je suis complètement d'accord avec toi.
Lui, il a pris. Enfin, il y a une réquisition où c'est 6 mois ferme, il semble.
Ça, c'est bien. Plus interdiction de stade à vie, normalement.
Bon, alors après, c'est un autre débat, mais on verra la différence entre ce qui est requis et ce qui est vraiment prononcé et surtout appliqué. Ça, c'est encore un autre débat. Bien, voilà, on a fini de faire le petit tour de l'actualité. On va vous parler de ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la possibilité de remporter 1 million d'euros ce week-end si vous êtes seul au premier rang. Comment faire ? C'est simple. Vous écoutez nos spécialistes, vous vous dotez des meilleurs outils qui existent sur le marché, à savoir le logiciel PronoFoot Expert Plus ou des applications qui sont disponibles sur le Google Play Store ou sur l'App Store. Allez, on commence match par match. C'est parti. Dans l'ordre de la grille, mais pas forcément, bien sûr, comme vous le savez, en ordre chronologique. Le premier match, c'est Marseille-Lens. Alors, on va commencer par Nadim, avec lequel il nous a communiqué son pronostic, qui est un double 1N. Seb, lui, de son côté, base l'Olympique de Marseille. Et Chris, de son côté, base également l'Olympique de Marseille. Nadim, je te cède la parole avec ton double 1N.
Oui, alors double 1N, parce que ben, Marseille, ils sont toujours invaincus. Ça joue pas trop mal. Ils ont un tout petit peu marqué le coup à Angers. Donc, un petit coup de mou à Angers. Au Vélodrome, ils sont un peu meilleurs. Donc, je les vois quand même favoris. Mais je me dis que Lens, bon, ils viennent de perdre 0-1. Ils ont quand même bien joué. C'est pas non plus, ils ne sont pas fait dominer outre mesure par Strasbourg. Ils ont pris un rouge. Ils vont se déplacer avec l'intention de prendre un point. Donc, je mets un double 1N. Alors, ce match, il est un peu particulier parce que c'est le match du dimanche soir. Et on aime bien arriver légèrement couvert le dimanche soir si on est encore en vie. Donc, voilà, c'est un match un peu spécial, j'en parle. Et un double 1N devrait quand même suffire.
Ok, Seb.
Oui, alors, moi, je suis parti sur base Marseille. J'avais basé déjà Marseille à Angers. Je me suis trompé, mais parce qu'il y avait eu quand même une rotation dans l'effectif qui ne devrait pas y avoir sur ce match-là. Ils sont à la maison, le club de Lens déconseille à ses supporters de faire le déplacement, donc a priori, il ne devrait pas y avoir de Lensois non plus au stade. Même si c'est une équipe plutôt à l'aise à l'extérieur, Lens, parce qu'ils ont gagné à Bordeaux, ils ont fait nul à Monaco et à Rennes, mais ils sortent d'un match quand même où ils ont été en dessous de Strasbourg, suite à un match où ils ont donné beaucoup contre Lille. Donc là, un dépassement en plus à l'autre bout de la France. Moi, je vois les Marseillais devant. Et je rajouterais juste que Marseille, c'est quand même 11 matchs sans défaite à la maison. 8 victoires, 3 nuls. Et leur dernière défaite, elle remonte au PSG l'année dernière.
C'est bon pour un supporter du PSG, ça, de mettre Marseille en passe.
On parle
bien.
Premier.
Non, mais c'est bien.
Chris.
Non, mais Marseille, pour moi, sans aucun souci, parce que Lens a fait quand même deux gros matchs là, contre Lille et Strasbourg avec son équipe type. Donc, la fatigue, je pense, peut se faire ressentir. Danzo a pris un rouge, donc il est suspendu. Kakuta est très incertain s'il a une grosse douleur au mollet. Marseille, c'est l'équipe qui va être fraîche, hein, parce que Sampaoli a fait tourner à Angers. Donc, je pense que les premières minutes vont être terribles pour Lens. Je pense que le premier quart d'heure, Marseille va essayer d'étouffer cette équipe lensoise. Donc, je pense que ça peut être très compliqué pour Lens. Donc, base Marseille sans aucun souci.
Ok. Match numéro 2, Clermont-Monaco. Nadim voit la victoire de Monaco en spectre. Sébastien, lui, voit un double N2. Et Chris voit, lui, un triple. Nadim, tu vois Monaco.
Oui, base Monaco, parce que ben, Clermont, à l'extérieur, ils se sont pris deux grosses tôles. On pensait qu'au PSG, c'était juste un accident. Mais là, ils se reprennent un 6-0. Donc, ils sont vraiment descendus sur terre. À domicile, Clermont, les deux derniers matchs, c'est deux matchs nuls. Donc, c'est un but partout contre Brest. Alors, Brest, c'est 18e du classement. C'est deux buts partout contre Metz. C'est le 20e du classement. Donc, c'est des résultats vraiment d'un promu et d'un relégable. Et en face, Monaco, mais ils ont trouvé le chemin défilé. Ils ont marqué par deux fois contre Nice. Là, ils viennent de mettre un 3-1 à Saint-Etienne où Ben Yedder a mis un doublé en rentrant en deuxième mi-temps. Donc, l'attaque, elle fonctionne très bien. 5 buts en deux matchs. Donc, je vois bien les Monégasques s'imposer et de belle manière. Donc, même je prendrais avec un handicap si je prenais un pari en sport ou un pari chez les bookmakers, et même avec des buts de Ben Yedder et de Voland.
Grosse confiance pour toi.
Okay. Très, très grosse confiance, oui. Je pense qu'il peut y avoir le premier carton. Enfin, ils peuvent concéder leur première grosse défaite à domicile dans la foulée.
Ok. Seb, tu es un peu plus nuancé avec un double N2.
Oui, alors je vois Monaco devant aussi, un peu comme tout le monde, mais je laisse traîner le N. Clairement, ils semblent marquer le pas là dernièrement sur leur dernière sortie, c'était moins bien. Ils viennent de se prendre un 6-0 à Rennes, mais bon, avec une équipe bis. Par contre, chez eux, ça peut être quelque chose. Christophe en parlait lors du dernier Spaces. Comme quoi c'était le match qu'ils attendaient là-bas. Je pense qu'ils vont arriver gonflés à bloc et on n'est pas à l'abri d'un petit nul, surtout que moi, Monaco, bon, ils ont gagné 3-1 contre Saint-Étienne là, mais c'était un Saint-Étienne qui a été réduit à 10 après même pas une demi-heure de jeu, quelque chose comme ça. Ils se prennent un but derrière. Ils sont pas loin de faire le break avant que Monaco égalise. Bon, après, Saint-Étienne, ça reste une équipe limitée. Mais Monaco, c'est pas. Ils doivent le... ils font 2-2 contre Nice juste avant, mais on se rappelle du penalty de Guiri raté à la dernière minute. Donc c'est, enfin, ils sont plutôt heureux en ce moment et je serais pas étonné qu'ils se fassent accrocher non plus à Clermont. Donc je les laisse favoris, mais le nul pour moi est pas impensable. Okay.
Moi, je connais un Auvergnat qui va être un petit peu plus mesuré.
Voilà, exactement, exactement. Le stade Gabriel Montpied va être plein à craquer. Donc là, les supporters attendent ce match depuis déjà pas mal de semaines. Et j'ai l'impression qu'ils vont prendre leurs pieds ce week-end. Donc je pense que Clermont peut faire une grosse performance contre Monaco. Tous les titulaires reviennent. Bayo était un petit peu à un moment donné en partance pour Monaco. Il n'est pas parti là-bas, donc il aura peut-être à cœur de se montrer contre cette équipe. Et puis la deuxième chose, c'est que Monaco, ce n'est pas le Monaco de la saison passée. Hein. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de difficultés ces derniers temps. À Nice, c'est un nul chanceux. Saint-Etienne, c'est une victoire pour moi qui est quand même chanceuse. Parce qu'un partout, Banga touche le poteau. Noble, le gardien, ce n'est pas l'assurance. Hein. C'est même,
il a fait son premier arrêt de la saison, non?
C'est ça, exactement. C'est quand on cadre, on marque, j'ai l'impression, avec lui. Donc voilà, donc je me dis que cette équipe de Clermont peut faire un résultat contre Monaco. Donc j'ai préféré tripler pour assurer. C'est peut-être alors, une des surprises du loto.
Voilà. Justement, juste pour bien comprendre ta façon de raisonner, Chris, tu argumentes dans le sens de Clermont, mais tu laisses quand même le 2 sur Monaco.
C'est ça, je laisse traîner le 2 sur Monaco parce que Monaco reste quand même une très belle équipe. Hein, sur le papier, c'est une des meilleures équipes du championnat. Donc je laisse quand même traîner. Voilà.
Très bien. Match numéro 3, Reims-Nantes avec un triple pour Nadim, un triple pour Seb et une base champenoise pour Chris. Nadim, tu peux débuter avec ton triple.
Triple, c'est un match qui va être très très dur à cerner, à déchiffrer. Nantes, ils sont en feu, ils ont mis 7 buts en 2 matchs, mais ça ne va pas durer éternellement. Reims, c'est les spécialistes du nul, ils n'arrêtent pas d'en faire, donc 4 nuls en 7 matchs. 2 à domicile sur 3. Ils n'ont toujours pas gagné à la maison, donc ça peut arriver. À la maison, ils ont joué Montpellier, Paris et Lorient. Donc, perdre contre Paris, ça va. Après, Montpellier, Lorient faire nul, ça va aussi. Mais je pense que c'est vraiment le match typique de Ligue 1 où tout peut arriver.
Très bien. Seb ?
Oui, alors un peu comme Nadim, moi je triple aussi. C'est un match assez compliqué à prédire. C'est deux équipes quand même qui sont proche en termes de niveau, même si c'est des styles différents. Hein, ça reste très solide derrière. Nantes, il y a un peu plus de qualité devant. Mais Nantes, ils sont en forme. A priori, ça devrait continuer. Mais Reims, comme on disait sur les précédents Spaces, c'est jamais très loin d'un nul hein, quand il y a Reims qui joue. Eux, ça leur va très bien le nul à la maison. Voilà, je sacrifie un joker pour ce match-là.
C'est pas très pétillant encore. Ok.
Dimanche 15h, ça a tout du match pour faire la sieste.
Ok, très bien. Chris, toi, tu bases.
Ouais, je base parce que c'est vrai que cette équipe de Nantes, elle est en feu en ce moment avec deux grosses victoires, mais je dis attention à l'excès de confiance quand même. Hein. C'est une équipe qui gagne rarement deux fois d'affilée, qui a du mal à enchaîner. Et là, je me dis que l'excès de confiance peut leur jouer un tour. Surtout que là, j'ai entendu Camboiré qui commençait à dire on va aller à Reims pour leur marcher dessus parce qu'on doit se racheter de la saison passée. Je pense que Reims a les moyens d'éviter ça. C'est très solide, hein, même si ils viennent de perdre à Lille, mais j'ai trouvé que la deuxième mi-temps à Lille était quand même prometteuse. Lille s'est fait bouger en deuxième mi-temps, hein, faut le rappeler quand même. Reims est revenu à 2-1, je pense qu'ils auraient peut-être même pu égaliser. Donc attention à cette équipe de Reims qui fait quand même un bon début de saison. Hein. C'est une victoire à Rennes, c'est un point pris contre Nice. Donc je pense que Reims va réagir aux propos de Camboiré.
Donc une victoire de Reims. Involontairement, en même temps qu'on boirait en déclarant ce genre de choses, il motive indirectement les joueurs de Reims.
C'est ça, exactement. Moi, je sais que j'étais joueur, hein, donc j'aimais pas quand un entraîneur adverse disait on va aller leur marcher dessus, etc. Donc j'aimais pas ça.
Tout à fait.
Donc je pense que ça peut voilà, surmotiver cette équipe de Reims. Et en plus, connaissant le tempérament du président de Reims, je pense qu'il aura aussi quelques mots envers ses joueurs pour les motiver. Ouais.
Très bien. Match numéro 4, 3 Angers avec un N fixe pour Nadim, un triple pour Seb et un triple pour Angers. Donc Nadim, tu gardes confiance sur tes N fixes ?
Je vais retenter, ça n'a pas fonctionné la dernière fois, mais c'est un match qui a une bonne tête de nul, je pense. 3, c'est pas très très fort, ça a juste gagné une fois à Metz cette saison. Ils viennent de perdre 3-1 à Lyon. Donc, 3, clairement, ils vont lutter pour le maintien. Ça ne fait aucun doute. En face, Angers, ils étaient super bien partis. Ils avaient même mis un 3-0 à mon équipe. Mais les trois derniers matchs, c'est 2 nuls, 1 défaite. Donc, la dynamique a été un peu perdue. Donc, je pense que les deux équipes qui grappiraient un point, ça ne leur ferait pas de mal. Le nul, ça remplace un triple quand on n'a plus trop de croix. Donc, voilà. Et puis, peut-être, évidemment, un gros under, voire un 0-0 à tenter chez les Bouks.
Très bien. Seb, toi, tu triples.
Oui, moi, je triple un peu sur le même, avec le même raisonnement que sur le Reims-Nantes. Même s'il y a un grand écart au niveau du classement, je pense que c'est un peu trompeur. 3, c'est pas forcément ridicule à la maison, même si ça fait 2 défaites. C'est 2 défaites contre Paris et Monaco, donc c'est pas infamant. Un nul contre Montpellier non plus. C'est une équipe que je vois pas arriver en victime expiatoire cette saison. Angers reste sur 2 nuls à l'extérieur à Bordeaux et à Brest. C'est pas des super équipes non plus. Donc je me dis que tout peut se passer dans ce match-là. Je m'en méfie beaucoup et voilà, deuxième trip pour ce match-là.
Et Chris?
Oui, c'est ça, tout peut arriver, hein, je pense, dans ce match-là. À la base, je voulais partir sur un N2. Je voulais mettre nul ou Angers. Et quand j'ai vu la première mi-temps de 3 à Lyon, qui était quand même, je pense, intéressante, je me dis que cette équipe de 3 est en train peut-être de monter en puissance. Il y a eu beaucoup de changements cet été. Pas mal de joueurs complètement méconnus sont arrivés, notamment de Manchester City. Donc voilà, donc c'est peut-être une équipe qui est en train de se chercher et qui peut peut-être surprendre quelques équipes. Donc c'est pour ça que j'ai préféré tripler pour assurer sur un match qui peut tout arriver. 3, c'est d'accord, quand même une victoire contre Metz, un nul contre Montpellier. Donc voilà, on ne sait jamais. Voilà.
On ne va pas revoir le jour dans l'aube. Ok, très bien. Allez, on enchaîne. Match numéro 5, Brest-Metz avec Nadim qui double en 1-2. C'est assez rare les 1-2 chez Nadim, si je ne dis pas de bêtises. Seb, lui, de son côté, voit un N-fix. Et enfin, Chris, lui, voit un double 1-N. Nadim, je t'en prie.
Oui, c'est deux équipes qui n'ont toujours pas gagné cette saison. Donc, 4 nuls, 3 défaites pour Brest, 3 nuls, 4 défaites pour Metz. Donc, je me dis que ça va finir par gagner d'un côté ou de l'autre. Plus sérieusement, enfin, Brest, c'est une équipe qui ouvre le jeu. Je le dis, je le répète, même s'ils ont fait quelques nuls, c'est pas du style à fermer comme Reims. Ils sont à domicile. Alors, Brest a marqué lors de ses 7 sorties cette saison en Ligue 1. Donc, ils marquent à chaque fois. Et ça promet un match assez riche en buts. Donc l'an dernier, il y avait par exemple eu une victoire messine sur le score de 4-2, avec donc Brest qui avait mené 2 fois, et au final, les Messins avaient renversé la situation. Donc 4-2, c'est un super score. Je pense qu'on va avoir un match un peu similaire ce week-end. Donc voilà, double 1-2. Et puis ceux qui aiment les paris book, over 2,5 buts, ou les deux équipes marquent, ou le tout combiné, comme vous voulez. Mais vous avez compris, je vois beaucoup de buts sur ce match.
D'accord. Seb?
Alors moi, j'ai nul fixe sur ce match-là. Nadim a un peu expliqué la stratégie, ça permet de libérer un autre match. C'est vraiment un match que je vois, moi, pas forcément ouvert, justement. Brest a plus gagné à Le Blé, donc à domicile, depuis début mars, soit 8 matchs, et c'était contre Dijon. On se rappelle de ce que valait Dijon. Metz, ils ont gagné qu'une seule fois dans leurs 8 derniers déplacements. Et bon, devinez quoi, c'était toujours contre Dijon. Donc, c'est un match qui pue le nul. Un match du dimanche à 15h, là. Metz reste sur 3 défaites d'affilée, à 3, à Strasbourg et contre Paris. Moi, je les vois bien se neutraliser, ces deux équipes-là. En bas du classement, il va y avoir beaucoup d'enjeux. Donc, je pars sur un nul fixe.
0-0 des familles.
Ah, ça m'étonnerait pas.
Ok, très bien.
Ouais, mais c'est ça, le 0-0 des familles, parce que c'est le match de la peur, hein, quand même, entre ces deux équipes, je pense. Hein. Il n'y a aucune victoire depuis le début de la saison. Donc, ça peut être compliqué pour ces deux équipes dans le jeu. Peut-être que la première mi-temps va être très, très fermée. Donc, je vois un nul à la mi-temps et je me suis couvert avec Brest, parce que Brest a quand même des joueurs intéressants devant, avec Romain Fèvre, avec Cardona. Donc, je me couvre avec Brest, mais moi aussi, je voyais quand même à la base un nul.
Ok. Direction l'Angleterre maintenant, avec le match Arsenal-Tottenham, avec une base Arsenal pour Nadim, un double 1-N pour Seb et un triple pour Chris. Donc une base en Nadim.
Bon, un derby londonien, un des nombreux derbys londoniens. Donc, il y a deux dynamiques qui sont un peu opposées entre les deux équipes. Arsenal, ils viennent de s'imposer deux fois en championnat, tandis que Tottenham, ils ont perdu deux fois. Alors, certes, une fois contre Chelsea, 3-0, mais le plus inquiétant, c'est la défaite à Crystal Palace, 3-0 également. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Et puis, même le match qu'ils ont fait à Rennes, j'ai vraiment pas reconnu une équipe anglaise qui joue le haut de tableau. Ça ressemblait vraiment à rien. Donc, je pense que le momentum, il n'est pas du tout du côté des Spurs. Et je tente une base assez couillue. Alors aussi, il y a une petite stat. Arsenal à domicile en championnat n'a pas perdu contre Tottenham depuis 2010. Donc ça parle puisqu'ils se rencontrent tous les ans.
Oui, ça commence à faire effectivement.
Oui, alors je l'avais aussi celle-là, Nadim. Et je vais même rajouter que Tottenham, c'est une seule victoire sur leurs 28 derniers déplacements en Première Ligue sur le terrain Arsenal. Donc sur les 28 derniers déplacements... des Spurs, c'est 16 défaites, 11 nuls en Première Ligue.
C'est le Bordeaux-Marseille anglais,
sur le terrain d'Arsenal. Donc, bon, non, mais il y a eu quand même quelques résultats pour Tottenham en Coupe, mais en championnat, bon, ça a l'air du côté des Gunners de prendre ce match-là assez au sérieux. Arteta, il a fait quand même pas mal tourner sur le match de Coupe, là, avant-hier, contre Wimbledon. Il a préservé Aubameyang, Pepe ou Saka par exemple. Tottenham, ils sortent d'un gros match au tir au but contre les Wolves où Espirito Santo, il a pas vraiment lui de son côté pu faire tourner. Ils se sont pris une claque par Chelsea 3-0 le week-end dernier, donc ça sent pas très bon du côté des Spurs. Voilà, Arsenal, c'est bon, bah ça reste Arsenal. On sait tous que c'est une des équipes à douille favorites des parieurs. Mais bon, je pars sur le 1-N et dernière stat, un seul des 10 derniers entraîneurs de Tottenham a remporté son premier derby face à Arsenal.
Oh, t'es allé chercher loin celui-là.
Donc bon, ça va. Écoute, on essaie de voir les signes et voilà. C'est pour ça que je vois pas Tottenham gagner. Et bon, je pars sur le double 1-N.
Très bien. Chris, lui, triple ce match.
Ouais, je préférais tripler parce que c'est Arsenal. Voilà, avec Arsenal, c'est tout bon ou tout mauvais. On ne sait jamais trop où en est cette équipe. Donc là, les récentes victoires contre Norwich, Burnley, bon, voilà, ce n'est pas des grosses équipes non plus du championnat d'Angleterre. Moi, je mets un bémol sur la méforme de Tottenham. Parce que bon, quand même, à Crystal Palace, ils perdent 3-0, mais il y a 0-0 avant l'expulsion de Tanganga. Donc, je me dis que les Spurs peuvent aller chercher quelque chose là-bas. La victoire, ça paraît compliqué, mais je préfère me couvrir. Et en plus, Harry Kane a retrouvé le chemin des filets là, dernièrement. Donc, je pense que les Spurs peuvent peut-être s'accrocher là-bas. Et Arsenal, c'est tout bon, tout mauvais. Donc, un triple, ça m'assure ce match.
Un Lyonnais, un Stéphanois en attaque chez les Gunners. Lacazette, Aubameyang.
Alors, la casette, le pauvre, il est pas mal sur le banc. Vrai, c'est vrai. Il sort pas mal le banc.
Allez, milieu de grille, match numéro 7, direction la capitale italienne, avec un derby entre la Lazio de Rome et l'AS Rome, avec un triple pour Nadim. Une victoire de l'AS Rome pour Seb, et une victoire de la Lazio pour Chris. Ah, il va y avoir à dire.
Bon, bah déjà, moi, j'ai triplé, d'ailleurs, mes deux collègues, mais ils ne sont pas d'accord sur la base, donc ça montre la difficulté sur ce match. Donc, c'est un vrai derby, puisque les deux équipes jouent dans le même stade, le Stadio Olimpico. Alors, c'est deux équipes qui marquent un peu le pas là, en championnat. La Lazio n'a pris que deux points sur les trois derniers matchs, et dont l'égalisation un peu chanceuse sur penalty contre le Torino, mercredi. Et puis, la Roma, ils ont perdu à l'Hellas Vérone. C'était la grosse surprise de la dernière grille. Et hier, ils se sont difficilement défaits de l'Udinese. Une petite victoire 1-0 et un rouge en fin de match. Donc, c'était pas la grosse victoire. Donc, triple pour assurer tout est possible. L'historique, il est très partagé entre ces deux équipes. Il n'y a pas de domicile, il n'y a pas d'extérieur. Voilà, donc un bon triple. Et puis en buteur, ceux qui veulent reprendre Immobile et Abraham, je pense que les deux devraient quand même marquer.
Ok, peut-être tu vois une victoire de l'AS Rome.
Oui, moi je suis parti sur la Roma. Alors c'est vrai que la Roma, c'est un peu moins bien. Ils perdent à l'Hellas Vérone le week-end dernier. Bonne contre-perf, mais bon, il y avait quand même des conditions assez particulières. Il a beaucoup plu, le terrain était bon, pas top. Ils font 1-0 contre l'Udinese dans un match où l'Udinese aurait pu ramener un point. Mais Moi, c'est surtout contre la Lazio que je trouve très très mauvais depuis 3-4 matchs là. Ils perdent à Galatasaray, on se rappelle, avec le but de casquette du gardien là, qui avec les gants Mappa, qui essaie de dégager le ballon en corner et en fait qui se met dans ses buts. Ils font 2-2 à la maison contre Cagliari qui est avant-dernier, ils comptent 2 points, dont un point pris par contre la Lazio. Et ils font là hier un match contre le Torino où ils s'en sortent très bien. Ils font un partout. Le Torino pouvait espérer mieux. Ça ressemblait plus à une défaite pour eux. Ils marquent un penalty en fin de match. Le Torino a beaucoup d'occasions et ils sont un peu heureux sur ce match-là. Donc même si la Roma va moins bien, la Lazio c'est encore pire. Donc moi je vois la Roma devant là.
Sur bon là, ça va être intéressant avec Chris. Lui base à l'inverse la Lazio.
C'est ça, voilà, victoire de la Lazio pour moi, et comme Nadim aime bien les buteurs, victoire de la Lazio avec le but d'Immobilier. Depuis le début de la saison, il est pas mal en mouvement quand même, donc 6 buts en 5 matchs, donc je pense que ça peut être intéressant pour la Lazio. Moi, la Lazio, c'est une équipe que j'aime bien, c'est vrai que ces derniers temps, c'était pas du grand football, voilà, sur la pelouse du Torino, le match nul est un peu chanceux, mais c'est un match nul acquis dans les derniers instants, donc qui peut un peu peut-être remotiver les troupes. Et officiellement, quand la Lazio reçoit, parce que malheureusement, il faut toujours une équipe qui reçoit et qui se déplace, même si c'est dans le même stade, quand la Lazio reçoit, c'est 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Donc je me dis que la Lazio est peut-être en réussite sur ce côté-là. Et la Roma, voilà, le triste match contre l'Udinese me fait penser que la Lazio peut l'emporter dans un derby où quand même la Lazio a besoin de points. Hein. C'est 4 points ils sont à 4 points derrière l'AS Rome. Donc je pense que c'est maintenant ou jamais pour la Lazio.
Parfait. Match numéro 8, on reste en Italie avec Naples face à Cagliari, où là, vous faites tip que vous basez tous les trois le Napoli.
Ouais, donc moi j'appelle ça the base, la méga base de la grille. Donc cette fois, normalement, il n'y a pas de douille.
Comme Manchester.
Alors là, on était plus serein et plus, oui. Oui, plus prudent sur Manchester. Donc là, Naples, c'est 4-0 à la Sampdoria, 4-0 à l'Udinese. Un 2-2 à Leicester où ils avaient archi dominé le match, mais Leicester avait mis 2 buts complètement contre le cours du jeu. Ils ont aussi battu, bon, un peu de manière plus chanceuse, la Juve, et ils font un sans faute en championnat, 5 victoires, 5 matchs, 15 points, leader. En face, Cagliari, c'est 19e, donc c'est vraiment pas fameux. Et bon, je vois bien une victoire de Naples. Et évidemment, alors, un joueur à surveiller, c'est Osimhen, qui lui aussi est complètement en feu comme son équipe. D'ailleurs, son retour fait un grand bien à l'équipe de napolitaine. Parce qu'en dernier, il avait été blessé une grande partie de la saison et également, il avait malheureusement contracté le Covid. Et là, il revient à son plus haut niveau, donc il a mis plusieurs doublés. Hier, il en a mis un. Il en a mis un contre Leicester. Donc, un doublé d'Osimhen serait même à tenter. Et par contre, j'ai vu que Cagliari était assez joueur à l'extérieur puisqu'ils se sont déplacés à la Lazio où ils ont fait le 2-2. Et ils ont quand même marqué un but au Milan AC lors de leur défaite 4-1. Donc, Naples l'emporte et les deux équipes marquent à tenter.
Oui, bah, moi pareil, hein, ça c'est la base solide de la grille, c'est difficile de sacrifier une croix pour autre chose qu'un 1 là-dessus. Cagliari avant-dernier, toujours pas gagné cette saison, Naples 5 matchs, 5 victoires, ils viennent de passer 2-4-0, invaincus sur leurs 14 derniers matchs de Serie A, 11 victoires, 3 nuls. Donc ils sont clairement en feu. C'est compliqué de voir autre chose qu'une victoire napolitaine sur ce match.
Effectivement. Même discours, Chris.
Ouais, voilà, difficile de faire mieux. Je pense que tout le monde a tout dit. Hein, on a tout dit. Donc c'est une Naples sans souci. Osimhen, le dernier match contre la Samp a été impressionnant devant. Et c'est vrai qu'il va faire du bien dans un autre style de jeu que les attaquants napolitains. Donc Naples sans aucun souci et une belle victoire 3-0 ou 4-0.
Parfait. Match numéro 9. Juventus de Turin contre la Sampdoria, où là, les mêmes constats basés tous les trois, la Juve.
Oui, donc la Juve vient de remporter sa première victoire de la saison, pas dans la simplicité non plus, mais 3-2 à la Spezia, c'est quand même la première victoire. Donc ils vont capitaliser là-dessus, les joueurs ils reviennent progressivement à leur meilleur niveau, il y aura Morata, Keane ou Dybala en attaque. Et surtout, en face, il y a eu la claque de la Samp contre le Napoli avant-hier, 0-4, qui fait un peu mal. Donc, la Juve devrait enchaîner par une victoire.
Ok. Yep.
Ouais, alors là pour le coup, c'est une base mais qui est beaucoup moins sereine. C'est une base un peu à la Manchester là pour moi. La Juve, bah je suis parti sur la Juve sec, mais j'espère que ça va tenir. Si j'avais une croix en plus, c'est certainement ici que je l'aurais mise sur le N, parce que la Juve, c'est pas serein, mais ils sont dans l'obligation de prendre des points parce qu'ils vont avoir un enchaînement de matchs assez incroyable là. Ils vont jouer Chelsea, le Torino, la Roma, le Zénith, l'Inter, Sassuolo. Ça, c'est leur prochain match. Donc, s'ils veulent éviter la crise, ils sont dans l'obligation de ne pas faire de contre-perf contre la Samp à la maison. La Samp, bon, après, ça reste une équipe correcte, même s'ils ont pris un 4-0 à Naples. Mais ils ont une seule victoire en 5 matchs et aucune de leurs 13 dernières confrontations n'a fini en nul face à la Juve. Donc j'ai écarté le nul, je ne les vois pas faire un coup non plus à la Juve, mais je vois une victoire étriquée,
D'accord.
un petit peu à l'image de la Juve qu'on voit en ce
Très
moment.
bien. Peace.
Ouais, pour moi, c'est une base. Hein. Si on reste sur les stats, la Samp, c'est 6 défaites sur les 6 derniers déplacements à Turin, 19 buts encaissés. Là, ils viennent de prendre 4-0 contre Naples. Je pense que ça fait mal à la tête. Et la Juve est sur une dynamique différente avec le nul contre le Milan, la victoire à Spezia, Chiesa qui est revenu et qui a marqué son but à Spezia. Donc ça aussi, ça va faire du bien dans l'aspect offensif parce que Kean, Chiesa, Dybala, Morata, c'est quand même assez impressionnant. Donc la Juve, je pense qu'il n'y a aucun souci. Ouais.
Oui, je crois qu'on a oublié de dire que De Ligt avait rallumé la lumière dans cette équipe. Merci.
Match numéro 10, direction l'Espagne avec le FC Barcelone qui reçoit Levante. Alors, vous n'êtes pas serein du tout, tous les trois, puisque Nedim double ce match 1-N. Même chose pour Seb. Et Chris, lui, va même jusqu'à poser un 2 sur Levante, qui est très, 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 très spéculatif sur cette grille. Nedim, ton double 1-N, quels sont tes
Oui.
arguments, s'il te plaît?
Bon, donc le Barça, ils sont à 82% actuellement sur la réparte. Je pensais que j'allais cocher une surprise, mais finalement, mes collègues, ils voient pareil. Donc, ça me rassure quelque part, mais on voit tous la surprise. Donc, est-ce vraiment une surprise? Ouais, plus sérieusement, hier, j'ai regardé le match du Barça, c'était catastrophique. Il y a 4 jours, j'ai regardé le match, c'était encore plus catastrophique à domicile. Alors, il y a plein d'absents au Barça qui peuvent expliquer le niveau de jeu de cette équipe. Agüero, Jordi Alba, Braithwaite, Ousmane Dembélé, Pedri, De Jong qui va être suspendu,
Ah, ça fait du monde.
Ansu Fati qui est incertain. Donc, mais il y a quand même sur la compo reste honnête, mais Depay hier il a complètement déjoué, il a raté 3-4 occasions des buts tout faits. Donc voilà, le Barça se cherche, on dirait qu'ils n'ont pas digéré le départ de Messi. D'ailleurs, je l'ai cherché hier sur le terrain pour l'anecdote, par réflexe. Et voilà, en face, Levante, c'est aucune victoire, mais 4 nuls en 6 matchs. Donc c'est pour ça que je ne coche pas le 2. Normalement, je vais jusqu'au 2 dans les surprises, mais je me dis, bon, 1-N, ça devrait suffire. Voilà, Levante, ce n'est pas le Celta Vigo, une équipe un peu plus aguerrie. Donc je me suis limité au nul, ce qui serait déjà pas mal au niveau des surprises.
Ok, Seb, pareil, double N.
Ouais, double 1-N, un peu le même raisonnement. 16 victoires d'affilée à la maison, toutes compétitions confondues contre Levante, donc match de coupe et championnat pour le Barça. Mais bon, après, c'est vrai que c'était un autre Barça, ils sont dans un nouveau cycle, donc bon, c'est une stat à prendre avec des pincettes. Levante, ils ont gagné aucun de leurs 14 derniers matchs en Liga. Cette année, c'est 2 défaites, 4 nuls. Donc moi aussi, je vois le match compliqué pour le Barça, mais de là à les voir perdre à la maison, sachant que le Barça a une série de matchs qui arrive avec, j'avais noté ça, ils vont jouer à Benfica, puis à l'Atlético, avant de recevoir Valence, le Dynamo Kiev et d'aller au Real. Donc, grosse série de matchs à venir. Là, je pense que c'est leur dernier joker avant cette série. Ils doivent engranger des points. Mais je laisse traîner le N, vu l'ambiance actuelle du côté
Si
du
Coman est encore l'entraîneur ce week-end.
Mais je pense que ça peut les aider si ça va.
Et Christophe, tu vas jusqu'à cocher le 2, donc.
Ouais, c'est ça, parce que l'ambiance à Barcelone, c'est une catastrophe. Hein. Moi, j'ai vu le match aussi hier, ça a été triste. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un Barça aussi pauvre dans le jeu. Par moments, des longs ballons, les petits jeunes au milieu jouent très simple, mais au final, ils prennent pas de risques. Donc, Depay a été transparent devant. Donc voilà, je couvre avec le Barça, mais je me dis que Levante peut aller faire quelque chose là-bas. Sachant que Levante a fait un bon nul contre Madrid au début de saison, contre le Real, 3-3. Ils ont quand même marqué 3 buts au Real. Ils perdent seulement 1-0 à la Real Sociedad. Le Barça aura peut-être la tête à la Ligue des Champions, sachant que la Ligue des Champions, le match de Ligue des Champions est peut-être plus important que ce match de Levante finalement. Parce qu'une défaite contre Benfica, je pense qu'en Ligue des Champions, c'est une élimination directe. Donc voilà, hier ils doivent perdre, faut pas se cacher. Hein. Hier le Barça doit perdre à Cadix 100 fois. Donc voilà, donc je me dis que le Barça peut tout perdre ce week-end. Voilà. Mais je couvre avec le Barça, mais ils peuvent tout perdre ce week-end.
Ok, puis voilà. Au niveau du loto-foot, c'est avec ce genre aussi de croix, c'est avec ça qu'on peut faire la différence, hein, c'est un jeu mutualisé. C'est avec ce genre de croix qu'on soit seul au premier rang. Avec 1 million d'euros dans la poche, Nadim.
Sauf que maintenant, tout le monde va tripler le Barça grâce à nos conseils.
Allez, on reste en Espagne, dans la capitale cette fois-ci, avec le Real Madrid qui accueille Villarreal. Donc, tous les trois, là, pareil, vous basez le Real. Donc, apparemment, pas trop de débat sur la supériorité Madrid.
Oui, le sous-marin jaune va couler à Bernabéu. Tout à fait. Donc, y a pas Gérard Moreno, il n'y a pas Chukwueze, puis Villarreal n'est pas à son niveau de l'Europa League, je dirais. Et surtout, le Real Madrid à domicile, ils ont joué deux fois, 5-2 contre le Celta, 6-1 contre Mallorca, ça veut tout dire pour moi. Donc, base.
D'accord. Oui, moi aussi, après Naples, ça, c'est la base solide de la grille. C'est une seule victoire côté Villarreal avec des matchs très poussifs, beaucoup de nuls. Le Real est en feu, ils sortent d'un 6-1 contre Mallorca. Benzema, on en a parlé tout à l'heure, il marche sur l'eau. Le Real, il reçoit le shérif Tiraspol là en milieu de semaine, donc c'est pas non plus un foudre de guerre avec ça aurait été l'Inter ou Shakhtar, je dis pas, mais bon, ils ont quand même assuré pas mal sur leur premier match en gagnant à l'Inter. Je pense pas que ce soit un gros objectif, enfin que ce soit une grosse priorité pour Ancelotti ce match qui arrive contre le Sheriff Tiraspol. Je vois le Real l'emporter, continuer sa belle série. Très bien.
Ouais, mais c'est ça, le Real en ce moment est en feu. Et moi, j'ai l'impression que d'avoir misé un peu sur la stabilité au Real, je pense que ça leur a fait du bien parce que c'est quand même quasiment la même équipe que l'année dernière. Offensivement, on n'a rien changé. Donc, j'ai l'impression que maintenant, tous les joueurs se trouvent les yeux fermés. Donc là, le Real, pour moi, devrait l'emporter face à Villarreal, sachant que Villarreal, c'est quand même 3 défaites sur les 3 derniers déplacements à Bernabéu. Sans Moreno, 23 buts la saison passée quand même, Moreno. Donc sans lui, Villarreal ne marque plus. Il y a eu 3-0-0 depuis le début de la saison, contre par moment des équipes assez faibles. Donc je pense que le Real devrait l'emporter. Ouais.
Et puis dernier, excuse-moi Nadim, Villarreal se déplace à United en semaine. C'est pas dit que s'ils prennent un but rapidement dans le premier quart d'heure ou dans les 20 premières minutes, là, que ce soit pas le
score. On a le remake de la finale alors d'Europa League. Ouais, très bien. Oui, et puis surtout le Real, il rejoue à 11 puisque l'an dernier Vinicius, il y avait que l'ombre du joueur sur le terrain, donc voilà, trêve de plaisanterie.
Ok. Pour les 3 derniers matchs, on retourne en Ligue 1 avec le match 0-12. Lyon-Lorient, vous basez tous les 3 les Lyonnais. Ça m'étonne la théorie des initiales de Figueroa cette année.
Ah oui, fameuse théorie des initiales, je l'avais oublié. Pour l'instant, c'est sans faute sur Lyon. Hein. Défaite au Parc, victoire contre Strasbourg ou contre Troyes, voilà. Non, mais Lyon, c'est une équipe qui monte en puissance. Hein. On en a parlé de Paqueta, il fait encore une super prestation. Il y a Shaqiri qui commence à être en jambes. Il lui faut encore quelques matchs, je pense, mais ça commence à s'affûter. Emerson, il a été élu dans l'équipe type de la journée. Donc, très, très belle équipe de Lyon qui monte en puissance. Alors, il n'y aura pas Dembélé qu'on va perdre pour plusieurs semaines, malheureusement. Mais à la limite, on n'a pas besoin d'attaquants dans cette équipe. On a besoin d'un bon milieu. Et j'ai assez confiance en Lyon. Alors, en face, Lorient, c'est quand même assez surprenant. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont quand même limite fait un hold-up face à Nice. Donc, ça devrait aller pour Lyon. Et pour ceux qui veulent des petites stats, alors Lyon à domicile a encaissé un but lors de ses 8 dernières sorties. Donc je vois bien une victoire de l'OL avec un but de l'équipe adverse, donc les deux équipes qui marquent.
C'est pareil, base lyonnaise.
Ouais, pareil, base lyonnaise, même si si je ne suis que confiant modérément sur ce match-là. On connaît la propension des Lyonnais à casser leur dynamique sur ce genre de match, mais avec Boss aux commandes, ça a l'air d'être très sérieux et il a l'air de bien tenir
son
groupe.
Il les dirige bien.
Il les dirige bien, un vrai boss. Sinon, Lorient, c'est une équipe qui marche bien à la maison. On a parlé de leur victoire contre Nice, même si c'est un hold-up contre Monaco, contre Lille, et qui se déplace très très mal. Hein. Leur dernière victoire à l'extérieur, ça remonte à octobre 2020 quand même. Hein. C'est 20 matchs sans victoire à l'extérieur. Donc, c'est ce qui me fait partir sur Lyon. Mais attention, moi je vois plus un 2-1, un 0, un but d'écart pour les Lyonnais.
Ouais, bah c'est ça, les victoires lyonnaises. Hein. Pour moi, le style de jeu de Lorient correspond parfaitement à Lyon. Hein. C'est Lorient aime jouer, aime aller de l'avant, aime attaquer à tout va. Donc j'ai l'impression que Lyon pourrait avoir pas mal d'espace. Et en plus, comme le disait Nadim, Lyon n'a pas besoin d'attaquants. Hein. L'année dernière, Lyon avait gagné 4-1, doublé de Guimarães, but de Paqueta et d'Awar. Donc, et Depay ne jouait pas ce jour-là. Donc même sans attaquant, Lyon peut l'emporter face à une équipe de Lorient qui, à mon avis, va trop jouer et qui peut peut-être faire tourner sur ce match après quand même un bon résultat contre Nice.
Très bien. Avant-dernier match, match numéro 13, Bordeaux-Rennes, avec triple, on a dit triple, et un double 1-N pour Chris. Nadim, tu vois plus Bordeaux, tu vois plus Rennes, tu vois. Bon, ton triple, bah,
je vois le triple. En fait, je vois rien du tout, vraiment, parce que Rennes, déjà, c'est équipe blacklist. Là, ils viennent de faire un 6-0. Ils sont capables de tout. On ne peut pas le prévoir. Et puis Bordeaux, c'est plaisant cette saison. Ils font le 3-3 à Montpellier. Ils marquent beaucoup de buts. Ils ont mis 7 buts en 3 matchs. Il y a leur attaquant Wang qui est en feu. Donc, tout est possible. Et puis, je serais parti sur un double 1-2, honnêtement. Mais c'est un match qui est dimanche à 13h. Et ça, c'est le vrai horaire de la digestion et de la sieste. Donc, ça peut faire un 0-0 comme ça peut faire un 4-3 d'un côté ou de l'autre, illisible, donc triple.
Et tu vois pas Rennes trinquer par 3 buts d'écart.
Non.
Seb, vas-y, je t'en prie. C'est la folie hein, aujourd'hui, c'est la folie, on est tous en forme. Allez.
On enchaîne. oui, non, mais moi, un peu comme Nadim, c'est un match difficile à lire. Deux équipes capables du meilleur, surtout du pire, j'ai envie de dire. Bordeaux en ballotage favorable, ils sont à la maison, ils ont des résultats qui plaident pour eux. Mais bon, victoire à Saint-Étienne contre un Saint-Étienne au fond du trou, un nul qui était pas trop mal à Montpellier. Et bon, dans un match qui a pas été simple pour eux non plus. Je vois tout. Rennes, c'est un 6-0, mais ils sortent d'un 6-0 en trompe-l'œil. On en a parlé avec une équipe de Clermont-Romagné. Donc Rennes, c'est pas impossible qu'ils aillent s'imposer à Bordeaux, que cette victoire-là leur donne la confiance qui leur manquait. Mais je vois pas grand-chose non plus, pour être honnête, sur ce match-là. Donc je sacrifie un de mes trois triples sur ce match.
Chris.
Alors moi, je vois pas du tout Rennes gagner. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre un nul. Rennes, c'est sur les 14 dernières années, c'est une seule victoire à Bordeaux, donc c'est quand même très peu. Rennes, pour moi, est une équipe toujours en trompe-l'œil, hein, c'est tout va bien, tout va mal, donc c'est une équipe qui alterne un peu le chaud, le froid, donc c'est compliqué de les mettre à Bordeaux, sachant que Bordeaux, après un début de saison compliqué avec beaucoup, beaucoup de recrues, est en train, je pense, de monter en puissance. Hein, je vois derrière la Mexer, Gregersen, c'est pas mal. Wang devant, il y a des joueurs intéressants et je pense que Bordeaux là peut l'emporter contre Rennes. Donc après j'ai préféré mettre le nul parce que avec Bordeaux on ne sait jamais aussi, mais je vois pas du tout Rennes gagner à Bordeaux.
Ouais, c'est clair. Allez, dernier match avec Paris Saint-Germain qui reçoit Montpellier Hérault Sporting Club. Là, vous faites pas dans la tête de vous baser tous les trois. Les Parisiens, vous n'avez pas peur par rapport aux dernières prestations du Paris Saint-Germain?
Bah, en fait, si. Là, c'est vraiment la base où je suis pas vraiment serein. Je sais pas trop lire ce match, surtout que c'est le match qui va précéder le choc contre Manchester City pour le PSG. Alors Paris, c'est 7 victoires en championnat sur 7 matchs, mais c'est quasiment 7 victoires en trompe-l'œil ou 6, puisqu'il y a eu le 4-0 contre Clermont. Mais tous les autres matchs, il y a eu des moments où ça s'est joué à peu pour une égalisation, voire une victoire adverse. Donc voilà, je ne sais pas comment prendre cette équipe de Paris. Après, au Parc, normalement, il y a un petit facteur plus et je me dis que c'est ce qui fera la différence. Donc, si vous n'avez pas de budget, basse Paris. Si vous en avez un peu, un petit nul pourrait se couvrir. Et puis, si vous êtes un peu fou, bah, vous cochez pas Paris.
Très bien. Seb.
Oui, alors moi, je suis parti sur base PSG aussi. C'est vrai que en ce moment, mais... Paris, c'est loin d'être là sur
le risque. Et Messi ne sera pas là. Hein.
Et Messi ne sera pas là, Verratti non plus. Et j'ai vu passer, je ne me souviens plus de l'autre. Mais bon, de toute façon, ils ont ce qu'il faut, ils ont ce qu'il faut pour battre Montpellier de toute façon. Même si c'est pas flamboyant, justement, en fait, ces fins de match-là, la joie du but dans les dernières minutes, il y a quand même des signes positifs malgré le manque de jeu et ce que je dénonçais un petit peu depuis plusieurs semaines là, dans cette équipe du PSG. Je les vois pas faire le faux pas parce que c'est au Parc et parce qu'ils se mettraient en grande difficulté avant de recevoir City. Je pense qu'ils vont faire le boulot et Montpellier c'est quand même ils sortent d'un nul à 3, un partout et d'un 3-3 contre Bordeaux, donc c'est pas non plus c'est une équipe qui joue, qui aime le jeu, qui aime ouvrir. Je pense que ça conviendra parfaitement au PSG qui aime pas ces équipes qui se recroquevillent sur elles-mêmes qui jouent avec des blocs très bas. Je pense qu'il y aura des espaces pour Paris et même s'il y a pas Messi Je vois la victoire quand même assez tranquille. Ah,
Chris.
Ouais, victoire tranquille. Hein. Si Reims a marqué 3 buts à Montpellier, si Bordeaux a fait pareil, Lille 2 buts, je pense que Montpellier quand même devrait encaisser pas mal de buts contre le PSG. Sur les 5 derniers déplacements à Paris, même si peut-être que Paris était mieux à cette époque, c'est 5 défaites, 20 buts encaissés. Donc voilà, donc ça fait mal pour Montpellier. Et je me dis qu'après toutes les critiques qu'il y a eu sur Mbappé là, par rapport au chambrage avec Oukidja, je me dis que victoire de Paris est peut-être un doublé d'Mbappé.
Parfait. On a fait le tour de cette grille. J'espère que vous avez tous les ingrédients nécessaires maintenant pour réaliser vos pronostics dans les meilleures conditions possibles. On souhaite bien évidemment la chance qu'il faudra pour énormément de chance à ce jeu pour éventuellement découper le pactole de 1 million d'euros. Alors, auditeurs, avant de vous donner la parole, d'ailleurs, vous pouvez commencer à vous manifester si vous souhaitez prendre la parole. Nadim, est-ce qu'il y avait encore un ou deux pronos bookmakers que tu souhaitais mettre en avant ?
Ouais, alors j'ai un peu regardé pour ce soir parce qu'il y a de la Ligue 2 et j'ai repéré le Paris FC à Niort avec une cote de 2,25. Donc le PFC, ils viennent de battre Nîmes après une série de 3 défaites. Ils ont vaincu le Signe Indien, ils ont gagné 2-0. Ça va les remettre en selle et en confiance. Et Niort, j'ai vu le match à Ajaccio avec le fameux but qui aurait dû être validé. Ils ont subi tout le long, je les ai trouvés assez faibles. Alors après, ils seront à domicile, les Chamois. Mais je vois bien le PFC enjamber les Chamois, justement. Après, en Ligue 1, je continue avec les Aiglons qui se déplacent à Saint-Étienne. C'est mon équipe favorite, comme vous le savez. Donc, une victoire des Niçois à 2,40. Et cette fois, Delors, il devrait mettre la balle au fond et peut-être même tirer les pénalties vu la confiance de Guiri. Donc, victoire de Nice et but de Delors, pourquoi pas. Green, le fameux gardien vert, sera suspendu. Donc, c'est aussi un point à noter. Et okay. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une méga affiche en Angleterre ce week-end. C'est Chelsea qui reçoit Manchester City. C'est le remake de la finale de la Ligue des Champions. Donc, on ne pouvait pas passer outre ce match. Alors, je vois. Donc, il y a le retour de Kanté depuis trois jours, à Chelsea qui leur a fait un grand bien. Donc, ils ont gagné 3-0 à Tottenham. Je pense qu'ils sont capables de battre City, mais je vais plutôt conseiller un but de Lukaku qui est coté à 2,50. C'est un peu comme Lewandowski, les voir au-dessus de 2, au-dessus de 2,50, c'est un peu exceptionnel, donc il faut en profiter. Le but de Lukaku devrait passer, surtout que City, ils ont pris 3 buts contre Leipzig avec leur victoire 6-3 et ils ont marqué le pas contre Southampton.
Ok. Chris, c'est ça, parce que vous avez.
Oui, alors moi j'ai le Nice à Saint-Etienne demain que j'aime bien. La cote des Niçois elle est à 2,30. Je trouve ça pas mal parce que Saint-Etienne c'est pas folichon. Nice, on en a parlé, c'est un petit hold-up de Lorient qui fait que ils perdent là-bas en Bretagne sur leur dernier match. Je vois bien les Niçois l'emporter dans le chaudron et le but de Delors est à 2,90, sachant que Dolberg sera pas là et que il y a des chances, si pénalty il y a, que ce ne soit pas Guiri qui les tire, étant donné sa réussite et ses deux pénaux manqués sur les deux derniers matchs. Donc voilà, moi je pars sur la victoire de Nice à Saint-Etienne à 2,30 et un but de Delors à 2,90.
Très bien. Chris, est-ce que tu as noté quelque chose?
Ouais, bah, ce soir, hein, je reviens encore une fois sur Dijon. Donc ce soir, Dijon reçoit Valenciennes. Dijon, c'est 3 victoires d'affilée. Donc je vois bien une victoire de Dijon encore une fois, avec un but de Le Bihan, le goléador de la JO Auxerre la saison passée avec 23 buts. Là, il est revenu dans cette équipe de Dijon. Il est déjà à 2 buts. Donc la victoire de Dijon avec Le Bihan, c'est 3,25. Donc je pense que c'est intéressant. Et ensuite, pour demain, j'ai trouvé une cote un peu bizarre. Donc Valence Atlético Bilbao. 2,55 la victoire de Valence. C'est vrai que Bilbao fait un bon début de saison, mais Valence, c'est une équipe qui joue bien. Donc, bon, ils viennent de perdre contre le Real et le FC Séville. Mais 2,55, je trouve que la cote est quand même assez élevée pour une victoire de Valence à domicile. Donc ça peut être intéressant.
Très bien.
Et pour terminer, Vinicius avec le Real.
Ah, c'est une, le c'est, fantôme.
C'est une cote de 3. Donc ça peut être sympa aussi.
Bien. Tout ça, c'est noté. Il est temps maintenant de vous laisser la parole. Mais avant cela, on voulait faire un clin d'œil à un membre du forum, qui porte le pseudonyme de Phoenix Fire, qui nous écoute d'Australie, pas de bêtises. Voilà, on voulait lui faire un clin d'œil, on pense qu'il nous écoutera en replay. Est-ce que, Seb, on a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Est-ce que tu m'entends, Seb?
Oui, pardon. Oui, on n'a personne. Écoute, aujourd'hui, tout le monde est bien silencieux.
Il y avait du monde et il n'y a plus personne. Allez, on reste encore une quinzaine de secondes pour savoir s'il y a quelqu'un qui se manifeste. N'hésitez pas à poser vos questions.
Et juste, on en profite pour dire que les podcasts sont disponibles sur la plateforme Spotify pour ceux qui voudraient réécouter, qui n'hésitent pas.
Alors, est-ce que les demandes ont évolué ou pas, Seth ?
Alors, on a MPC 1904.
On l'a déjà eu.
Salut l'équipe.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Bon, vous remerciez pour vos conseils sur cette liste. J'espère que je toucherai le pactole.
Et c'est tout le mal qu'on te souhaite.
Tout à fait. Et je voudrais revenir pour un match qui a lieu mercredi en Ligue des Champions. Je suis supporter de Benfica, donc on joue Barcelone. Et je pense que c'est le parfait moment pour jouer Barcelone. Donc je pense que Benfica 2,65, je ne dis pas que c'est cadeau, mais il y a moyen de faire quelque chose mercredi soir.
Très bien.
Ouais, c'est possible. Je pense c'est pas que c'est le moment de jouer Barcelone. C'est la saison pour jouer le Barcelone, le
oui,
FC Barcelone.
Tout à fait. Vu que Messi, son départ leur a fait très molle. Puis j'ai regardé les derniers matchs de Barcelone, ça fait peur. Il y a vraiment rien.
C'est un club malade. Il y a les blessés aussi qui vont sûrement revenir. Oui, je pense qu'elle va monter, mais aussi. Effectivement, il vaut mieux les prendre là que dans quelques mois.
Bien sûr. Et vu que Benfica est au complet. Et surtout un grand attaquant qui revient en forme, Darwin Núñez. Donc, on peut leur faire mal, sincèrement. Je pense que mercredi, ça peut être notre soir.
D'accord. Merci
pour du conseil.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Bon, bah, selon notre auditeur, le Barça ne verra pas la lumière au stade de la Luce. Pas de bêtises. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre, Seb?
On accueille Capital Libré.
Alors, que tu nous entends?
Qui a son micro de coupé.
Il faut activer le micro.
Que tu nous entends?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonsoir.
Oui.
Tu nous appelles d'où?
De Marseille.
Très bien, on t'écoute.
Voilà. Moi, je voudrais parler du match de Paris contre Montpellier.
Oui.
Et je me dis qu'avec un joueur comme Lionel Messi, à tout moment, personne ne voit qu'il peut mettre un doublé ou un triplé. Alors, je voudrais mettre triplé de Léo Messi et tout supporter de l'OM que je suis.
Mais c'était bien ton objectivité sonore, mais le problème c'est qu'il ne jouera pas ce match contre Montpellier. Il est blessé au genou.
Oui.
Il est blessé au genou.
Oui. Je suis arrivé en cours.
Oui, bon, c'est pas grave.
Bon, mais il faudra le mettre, Messi, triplé. voilà, il faudra le mettre.
Je pense qu'il devra en mettre quelques-uns dans la saison. Après, il reste à savoir quand, mais en tout cas, merci pour ton appel.
Merci, bonne soirée.
Toi aussi, au revoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Martial, peut-être?
Un habitué.
Alors, Martial.
Un habitué, Martial.
Non. Allô, Martial, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends.
Oui, bonjour, on t'écoute.
Je suis venu en cours, donc je ne sais pas si vous avez parlé du match de Inter-Atalanta.
Non, on n'en a pas parlé.
Pas vraiment.
Bon, je me dis, Inter, offensivement, cette saison, avec Zeko, on a eu un peu de crainte, mais là, c'est fort offensivement. Je pense que ça va faire mal à Atalanta.
D'accord.
Donc, je veux savoir, je veux avoir votre avis en fait. Est-ce que Inter en sec c'est bon ou il faut
on
avoir
pas peur. Devin, hein. On n'est pas devin, mais oui, l'Atalanta cette saison, ils sont un poil décevants, je trouve. Donc, effectivement, et l'Inter, c'est pas trop mal. On craignait le départ de Lukaku, mais Dzeko, il a très bien remplacé, comme tu le dis. Il y a Lautaro Martinez qui tourne toujours. Ça peut se tenter. Ces 2-10 la cote, ça semble pas mal.
Ok.
Oui, surtout l'Atalanta, j'ai regardé un petit peu leur match contre Sassuolo, là, c'était,
ah, c'était miraculeux, pas non plus, miraculeux, oui.
C'était une victoire heureuse.
Est-ce que ça répond à ton interrogation?
Oui, ça répond à mon interrogation, merci.
Bonne chance à toi.
Ok.
Au revoir.
À bientôt.
Seb, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre?
Alors, on a Salah Gigi, qu'on a déjà reçu.
Il doit être content d'avoir passé son combiné buteur d'hier.
Il est avec nous quand il aura activé son micro.
Est-ce que tu nous entends? Allô?
On a l'air d'avoir perdu Salah bon. Gigi. On va peut-être essayer avec Sesame 12.
Sesame 12, est-ce que tu nous entends?
Qui se connecte. C'est Sam 12, il faudrait que tu actives ton micro.
Vous
aussi.
M'entendez?
Oui, on t'entend, bonjour.
Ça y est.
Bonjour.
Tu nous appelles d'où?
Annecy.
Très bien. Très Annecy. Belle ville.
Ouais, très belle ville, ouais. Merci. juste, bah, déjà, merci pour les conseils pour la liste. Oui. Moi, juste pour information, je suis supporter girondin. Beaucoup d'absents côté girondin. Wang et Onana devraient être absents, donc c'est quand même deux personnes qui pour moi ont été très importantes sur les deux derniers résultats de Bordeaux. Après on va jouer à domicile, mais je vois vraiment le nul sur ce match-là.
D'accord.
Parce que c'est une équipe qui est encore en construction et on n'a encore pas toute la réussite qu'on mériterait d'avoir sur certains matchs. Donc,
et qu'est-ce qu'il Wang il est absent,
apparemment,
pourquoi
il serait peut-être absent, il y aurait beaucoup de joueurs qui seraient fatigués dû au match qu'on a joué dans la piscine du Chaudron le week-end dernier, c'était quand? Ouais, le week-end dernier. Il y aura apparemment, il y a aussi beaucoup d'organismes du côté de Saint-Etienne qui seraient fatigués dû à ce match, des adducteurs qui sifflent notamment. Donc c'est pour ça que je vois,
okay, ouais, c'est physique.
Je vois pas forcément Bordeaux gagner, mais je ne les vois pas perdre non plus. Et je pense que le nul, pour moi, est value, on va dire, hein, si on parle comme ça. Et par contre, ouais, je vous rejoins sur Saint-Etienne, qui, à mon avis, va encore avoir du mal chez eux. Et je vois...
Ça sent la saison galère.
C'est parce que Bordeaux, les a battus que tu te dis ça. Tu te dis
non,
que ça doit être
non,
tellement...
Non. Quand on les voit jouer, on voit que c'est quand même poussif, c'est dur, ils ont des bons joueurs, ils ont des bonnes individualités, mais on a vraiment l'impression que ça rentre pas, quoi, que ça veut pas rentrer. Mais je les vois bien, enfin je les vois perdre contre Nice, car Nice, je trouve que c'est une bonne équipe avec un bon entraîneur, mais par contre je les vois bien marquer, je les vois bien leur donner du fil à retordre.
D'accord.
Donc,
okay.
Donc... je pense qu'ils cherchent quand même leur première victoire, que je crois qu'ils n'ont pas gagné encore. Et je crois qu'ils aimeraient bien faire ça au Chaudron. Donc, pour moi, je pense que ça va être un match compliqué, mais ils vont marquer des buts.
D'accord, très bien. Donc, toi, sur un jeu comme ça, sur une grille comme ça, tu, malgré que ce soit équipe d'élection, tu poses un NFX sur le match Bordeaux-Rennes.
Ouais.
Tu abordes ce genre de grille de cette façon. Ok, c'est intéressant de
voilà.
savoir. Hein. D'accord, très bien.
Exactement.
Et bah, c'est noté.
Voilà. Et puis, bah non, après. Ouais, j'ai quelques avis personnels, notamment sur Tottenham, où je pense qu'ils peuvent quand même donner du fil à retordre à un Arsenal aussi un peu poussif. Donc, je verrais bien N2 sur ce match-là. Et puis après, le derby romain, je vois bien un match nul aussi. Je vois pas mal de matchs nuls suite à l'enchaînement des matchs et avec les matchs européens qui vont
14 nuls sur la grille et c'est plié.
Ah bah là on est bien là on est refait là. Voilà.
Là, ouais, voilà. Là tu refais la cerise pour une paire d'années.
Ouais, bah, faut quand même se méfier. Alors peut-être les 14 nuls sur le 14 c'est moins plus rare, mais sur le 7 il y en a beaucoup qui jouent les 7 nuls, mais voilà, c'est pour la
ligue. Non, mais je pense qu'il y aura, bon, à part par certains clubs qui pour moi normalement ça devrait pas poser trop de soucis, je pense à Naples où ça devrait passer largement. Même si vous avez des doutes sur Barcelone, je pense qu'ils sont obligés un petit peu de se sortir de cette panade. Donc, même si le match était triste, je pense qu'il va, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Bon, il y a, y a des nuls qui me semblent assez évidents. Après, au foot, bah, on sait bien comment ça se passe.
Et parfait. Voilà. En tout cas, merci pour ton intervention.
Merci à vous. Merci pour ce que vous faites.
T'en prie. Bon week-end. Bonne chance pour ce week-end. Bon week-end.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Seb, est-ce qu'on a encore quelqu'un ? Dernière personne peut-être ?
Alors, on a Salah Gigi qu'on a essayé de reprendre.
Est-ce que tu nous entends ?
Oui, bonjour tout le monde.
Oui, salut. Bonjour.
Salut.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Ça va et toi ?
Ça va. Bah, moi, je voulais intervenir déjà sur deux points. Je voulais déjà donner mes quelques buteurs que j'avais repérés ce week-end. J'aimerais bien vos avis, même si bon, moi, mon avis, il est déjà tranché, mais j'aimerais bien quand même. Moi, j'aime bien Antonio à West Ham. À 2,50, j'aime bien le profil. Ils vont à Leeds, je crois.
Ah, ils vont à Leeds.
Et je pense qu'il va avoir du but. Donc, moi, je le prendrais bien. Et ensuite, j'aime bien Patrick Schick à Leverkusen.
On l'aime tous, Patrick Schick.
Surtout avec une belle cote encore. Hein. Il a 2,45, je crois, ou 2,50. Et je trouve que c'est des super cotes. Super code pour des buteurs, parce que j'ai un peu peur des grosses écuries qui vont jouer un peu en Ligue des Champions. Si ton buteur il a pas marqué à la 60e, il mène déjà 2-3-0.
Il sort direct, chance. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une très bonne analyse, ouais. Faut donc, se méfier moi, des temps
peur.
De jeu.
Ça oui. me fait très peur quand tu prends un striker et qu'il y a 2-0 et qu'il y a la Ligue des Champions. Bon, à la 60e, il va sortir. Donc voilà. Donc moi, c'était mes avis. Je préfère prendre des strikers comme ça qui n'ont pas de gros matchs dans le. La semaine d'après.
Après, Mayence, c'est quand même une équipe qui prend pas beaucoup de buts. Hein.
Bah oui, c'est ça. Mais bon, je suis plutôt optimiste par rapport à Leverkusen.
Mais Leverkusen, cette année, c'est beaucoup mieux que l'an dernier où ils étaient c'est dans ça. Le dur. Et là, ils refont surface. Donc,
Franchement, ils refont surface. Après, bon, c'est des grosses cotes. Hein. Il y a des gros strikers ce week-end, hein, 80, 70. Mais je préfère passer la main.
T'as raison.
Ce week-end-là.
Pas mal
et
ça.
Et ensuite, j'avais une question à nous, particulièrement. Il y a une époque, tu faisais des grilles groupées où on pouvait miser avec toi.
C'est vrai.
Moi, étant joueur, mais pas très bon dans les grilles, j'aimerais savoir pourquoi tu avais arrêté. Et si
c'est une époque lointaine. Hein. C'est une époque lointaine. Non, en fait.
J'ai souvent misé, moi, avec toi à l'époque.
En fait, là, j'ai un groupe. Sur Winamax. Alors, Winamax, j'ai arrêté.
Je misais, moi.
Oui, alors Winamax, avant il y avait des 12 que sur Winamax et la FDJ a eu la bonne idée d'en faire également. Et d'accord. Au final, les montants à gagner sont supérieurs, l'espérance de gain est supérieure chez la FDJ, notamment au rang inférieur. C'est-à-dire sur Winamax, tu prends pas le 12, ben, tu prends rien. Alors sur la FDJ, si tu prends pas le 12, le 11 il peut payer parce que leur pactole n'est qu'au premier rang à Winamax et ils n'ont pas les enjeux de la FDJ. Donc d'accord. J'ai arrêté les 12 Winamax clairement en groupe.
D'accord.
Si c'était pour Winamax la question.
Et sur les FDJ, tu as déjà un groupe déjà
formé. Oui, un groupe d'amis. Et malheureusement, intégrer des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas des amis, ça n'a pas la même saveur.
Oui, ça n'a pas la même saveur. Moi, après, voilà, comme je disais, je ne suis pas un très grand joueur de gris, mais des fois, pour vibrer tout le week-end, c'est sympa.
C'est vrai.
Pour vibrer tout le week-end, c'est sympa. Donc voilà, moi, j'ai mes buteurs, ceux-là, et je dis, j'ai
après,
vraiment un point. J'ai
après, il y a toujours des groupes. Qui sont hébergés sur le site Pronosoft. Hein. Tu as une section groupement l'autofoot. Tu peux éventuellement postuler à l'un des groupes.
Ah, je ne savais pas.
Ouais,
donc, ça, c'est sur le forum, c'est ça ?
Absolument. Ouais, il y a un forum groupement privé. Sur l'index, tu vas et il y a groupement privé.
D'accord.
Après, il y a pas mal d'équipes qui jouent avec plusieurs. Et voilà, bon, elles ont chacune leur mode de fonctionnement, mais tu devrais pouvoir trouver ton bonheur si vraiment tu veux.
Je vais regarder ça et voilà. Et donc moi, j'ai vraiment insisté. On ne sait jamais s'il y a les auditeurs par rapport aux buteurs. Vraiment faire attention le week-end avant la Ligue des Champions.
T'as raison.
Planer, faut faire attention.
C'est vraiment. Une bonne remarque.
Et puis bravo pour ton ticket d'hier. Hein,
ah, hier, il était pas mal mon ticket d'hier, mais il est loin de la cote à 65. Hein.
Ouais, mais bon, c'est déjà bien.
Il est déjà pas mal. Bon, après, j'ai eu beaucoup de réussite avec l'immobilier hein, là, sur le penalty. Vraiment beaucoup de réussite. Mais bon.
Mais il en faut.
Mais tu le prends aussi parce qu'il est tireur de pénalty. Donc, c'est pas. Voilà.
Bien sûr. Je le prends parce qu'il a à deux aussi. Voilà, c'est une belle chose pour l'immobilier. Hein.
C'est vrai.
Donc voilà. En tout cas, merci pour tout. Vos spécialistes, ils sont super. Ils sont géniaux.
Okay, merci à toi. Merci à toi
bonne pour chance à
ton écoute. Bonne chance à toi également. Bien. Chers auditeurs, il est temps de nous quitter. Encore une fois, on plein de chance, plein de réussite pour vos pronos du week-end, que ce soit chez les bookmakers, les buteurs, les combos, et bien sûr pour ceux qui jouent le loto-foot. Tout ce qu'on souhaite, c'est de réaliser le sans faute. On se retrouve très prochainement, probablement, très probablement, début de semaine prochaine, avec le match de la Ligue des Champions.